ce matin doucher un peu tous nos rêves, finalement. Puisque depuis tout ce temps qu'on espère trouver de la vie sur Mars, qu'on espère en créer, peut-être, vous nous dites non, cette planète est trop petite pour accueillir la vie.
Bah, effectivement, c'est-à-dire que le problème fondamental, c'est qu'on est certain qu'il y a eu de l'eau sur Mars. Le problème, c'est pourquoi il n'y en a plus sur la surface de Mars.
Ouais.
Il y en a peut-être à l'intérieur encore, hein, ça, dans la croûte, on verra bien. Et donc, la dernière publication qui est sortie le 28 septembre 2021, donc maintenant, dans le PNAS, qui est le Proceeding of National Academy of Science des États-Unis, et dont le premier auteur est Zhen Tian, qui travaille dans le département des sciences de la Terre et planétologie de l'Université Washington à Saint-Louis, qui est au sud de Chicago. Et ce dernier article s'est intéressé à comment les planètes se forment, donc ça c'est le problème de la planétologie, et d'essayer de comprendre comment certains éléments dans la planète, parce que tous les éléments sont forcément appartiennent à la même nébuleuse de formation avec le Soleil, la Terre, Jupiter, tous ces éléments étaient là à la formation du système solaire, et certains éléments vont se accrécer, vont se coaguler en quelque sorte, vont former les planètes, et puis au milieu il y a le grand Soleil qui lui, c'est d'hydrogène en fusion. Et donc l'idée, c'est de voir comment ces planètes se forment et comment les éléments restent ou non dans ces planètes. Et donc certains éléments sont considérés comme volatiles, hein, qu'on pense à l'hydrogène, à l'hélium, et donc ces gaz vont s'échapper évidemment des roches lors de la formation de ces planètes. Et l'idée, c'est est-ce qu'ils vont rester là et former donc une atmosphère? Et si elles forment une atmosphère, il va donc y avoir une pression atmosphérique, et cette pression va conditionner en fait la présence ou non de d'eau liquide à la surface. Et qui dit eau liquide à la surface, eh bien on suppose que le même mécanisme de développement de la vie que sur Terre aura lieu dans ce même genre de conditions. D'où évidemment l'étude qui est là, parce que c'est important évidemment pour tous ceux qui cherchent ce qu'on appelle les exoplanètes, donc les planètes qui sont en dehors de notre système solaire.
Et qui pourraient ressembler à la nôtre.
Et qui pourraient ressembler à la nôtre. Il y avait un premier critère qui était une zone d'habitabilité, c'est-à-dire la distance entre la planète et son étoile, pour déterminer sa température. Mais ce qu'il prouve dans cet article, c'est que cette zone d'habitabilité ne suffit pas. Il ne suffit pas de connaître la température de cette planète, il faut aussi déterminer sa masse et son rayon, pour voir si effectivement l'atmosphère va rester bloquée par la planète, grâce à la seule force possible qu'exerce la planète, qui est la gravitation. C'est-à-dire qu'elle attire ces gaz, et d'un autre côté, bah, ces gaz sont en mouvement par agitation thermique. Est-ce que oui, non, ils vont rester sur cette planète?
Alors, est-ce que ça veut dire que pour qu'une planète puisse créer de la vie, ou en tout cas se transformer en quelque chose qui va faire de la vie, il faut absolument qu'elle ait exactement la même taille que la Terre, ou bien c'est un peu plus compliqué que ça, ça peut aussi avoir...
Voilà, c'est un peu plus compliqué. Ça dépend de la masse de la planète, mais aussi de son rayon. Et c'est le rapport entre masse et rayon qui va déterminer la capacité gravitationnelle à ce que la planète conserve cette atmosphère. Et pour ça, il faut analyser différentes roches et analyser les roches partout. Et donc, eux ont travaillé sur des roches, évidemment, sur la Terre, ça c'est facile, sur des roches lunaires, mais aussi sur les roches martiennes, évidemment, et aussi sur des roches appartenant à l'astéroïde Vesta. Et donc, ils ont analysé leur composition grâce, évidemment, à Persévérance, là, qui est actuellement sur Mars, mais aussi à une mission Tianwen, et aussi grâce au survol de Mars par toute une série de satellites. Et ils ont développé une nouvelle technique, c'est pour ça que l'article est considéré comme neuf et important. Ils ont mesuré le rapport entre deux isotopes d'un élément assez volatile qu'on appelle le potassium. Le potassium classique, c'est le potassium 39, et il y a un deuxième isotope du potassium qui est stable, qui est le potassium 41. Nous possédons par exemple un isotope instable, qui est le potassium 40, à l'intérieur de notre corps, donc nous sommes naturellement radioactifs. Et ce qu'ils ont pu montrer, c'est que le rapport entre le potassium 39 et son isotope 41 va permettre de déterminer si oui ou non la planète sera capable de maintenir son atmosphère. Et donc ils ont ainsi démontré qu'évidemment Vesta, qui est un petit astéroïde, n'a plus d'atmosphère du tout, n'a plus aucun gaz à l'intérieur, il ne reste plus que de la roche, des silicates typiquement. Et bien dans, la Lune est trop petite, hein. La masse de la Lune c'est à peu près un centième de la masse de la Terre, et le rayon de la Lune c'est seulement 1700 km, alors que la Terre c'est 6400 km. Et donc il se fait à ce moment-là qu'en quelque sorte la Lune s'est complètement dégazée, même s'il y avait avant, dans la formation de la Lune, de la vapeur, de l'eau, de l'hydrogène, de l'oxygène, du dioxyde de carbone, tous ces gaz sont partis parce qu'il n'y avait pas assez de gravitation. Et ils ont montré que c'était la même chose pour Mars. Mars fait 3400 km de rayon pour une masse qui est à peu près le dixième de la masse de la Terre.
Est-ce que ça veut dire que donc ils ont une espèce d'équation comme ça et que si jamais on sait exactement tous les atomes qu'il y a sur une planète, on pourra dire si les conditions ou pas sont réunies pour la vie?
Oui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas vraiment d'équation parce que c'est des expérimentateurs, ouais. Mais ils ont une relation dite de corrélation, okay, entre le rapport entre ces deux isotopes de potassium et les conditions de maintien d'une atmosphère sur une planète. Et donc ils arrivent à la conclusion effectivement que Mars est trop petite et pas assez massive. Et donc, c'est les combinaisons rayons et masse. C'est le fameux petit g que vous avez étudié à l'école qui vaut 9,8 mètres par seconde carré sur Terre. Je ne sais pas si vous vous souvenez.
Guerre.
Tir parabolique. Et sur la Lune, bah, ce petit g est le sixième de la Terre. C'est pour ça qu'on dit qu'on pèse un sixième du poids, en quelque sorte. Et sur Mars, eh bien, il vaut à peu près le tiers. Et donc, c'est ce facteur d'attraction gravitationnelle qui va maintenir ces gaz. Qui dit maintenir ces gaz dit augmentation de la pression. Sur Mars, il y a une atmosphère extrêmement ténue. Elle vaut à peu près 170 fois moins que la pression atmosphérique. Et vous savez peut-être que dès que la pression diminue, eh bien l'eau ne reste plus liquide, elle passe à l'état vapeur. L'eau bout à 100 degrés à la pression atmosphérique, mais dès que vous baissez de pression, par exemple en altitude, bah, l'eau va commencer à bouillir à 60 degrés. Et si la pression continue à baisser, eh bien l'eau passe directement à l'état vapeur, et la vapeur ne reste pas sur la planète, et elle s'en va. Et donc ça interdit l'existence d'eau liquide à la surface, bien sûr, de la planète.
Et est-ce qu'on a des idées sur d'autres planètes qui pourraient avoir la bonne masse, donc, et le bon rayon
Eh bien voilà, disons que la difficulté pour les astronomes, c'est évidemment, c'est assez plus ou moins facile de mesurer la distance entre la planète et l'étoile correspondante pour déterminer si oui ou non cette exoplanète est dans une zone habitable du point de vue température, évidemment, parce que si la température est de 600 degrés, l'eau non plus ne se maintient pas. Mais maintenant, on va essayer de déterminer les masses de ces différentes exoplanètes et le rayon, ce qui est beaucoup plus compliqué, de telle façon à voir si l'eau liquide à la surface peut encore exister sur l'exoplanète et ainsi sélectionner quelles sont les zones planètes habitables avec de l'eau liquide à leur surface.
Bon, tout ceci fait un peu rêver.
Mais oui.
Même si on apprend que la vie, ça n'est pas de la sorcellerie, mais c'est quand même beaucoup de la chimie.
Et beaucoup de chimie, beaucoup de physique.
Merci Pasquale Hénard.